Le matin quand je me lève, le Seigneur est près de moi. Avant que la nuit s'achève, je me prépare au combat. Je sais que j'ai la victoire en chantant ces quelques mots. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, comme si tout le diable s'enfuit. Je marche sur la route, l'Éternel marche avec moi. Je ne crains pas le doute, car je suis rempli de foi. Je ne chancellerai pas, car Jésus garde mes pas. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, comme si tout le diable s'enfuit. Quand je suis dans le combat, Seigneur, je m'appuie sur toi. Quand je vois mes ennemis, oui, mon cœur se réjouit, car je sais qu'ils sont. Le diable s'enfuit. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, aussitôt le diable s'enfuit.
Bonjour à tous.
Ça va bien ce matin?
Oui. Ce beau soleil, magnifique. Je prie pour que ça soit la même chose le week-end prochain. On est content d'avoir notre frère Nono avec nous et ses amis. Que Dieu vous bénisse. On va pouvoir passer une belle journée ensemble. Ésaïe, chapitre 53, verset 10, s'il vous plaît, avec moi. Vous connaissez tous ce texte. Ésaïe 53, verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance, donc Jésus, hein. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Amen. C'est une autre version, hein, vous avez vu? Est-ce que vous pouvez me passer votre version, que je vous la lise pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux? Tiens, tu nous la lis, Philippe.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, toutes ces nouvelles versions. Alors, j'étais tombé amoureux de cette version-là, et puis finalement, non, pas trop. Et puis j'en ai trouvé une autre, la nouvelle Tob qui est sortie. Ah, elle est formidable. Oui, mais pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils ne mettent pas les livres dans le même... Vous savez, nous, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Samuel, Chronique, Esdras, Néhémie. Mais eux, non. C'est tout mélangé différemment. Oh là là, alors si je veux chercher Esaïe, je suis obligé d'aller le chercher. Il faut que je reprenne tout, ça m'ennuie. Donc c'est une belle Bible, elle est sur ma, dans ma bibliothèque. Très bien, je vais reprendre ma bonne vieille Bible des années 1900. Et ça ira très bien comme ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ésaïe 53, 10, il prolongera ses jours, il verra une postérité. Il prolongera en fait, Jésus veut prolonger ses jours au travers de nous. C'est ça son but. C'est ça son idée. C'est ça l'idée, la grande idée de Jésus. On n'est pas, on n'a pas été sauvés simplement pour pouvoir dire « Alléluia, on ne va pas en enfer ». C'est déjà pas mal. Mais on est là pour prolonger les jours de Jésus sur la terre. Mes frères et sœurs, en prolongeant les jours de Jésus sur la terre, évidemment, nous sommes la lumière. Alors, étant la lumière, on est visible. Et alors, évidemment, quand on est visible, on attire les mouches. Vous savez que Bézélbul, ça veut dire prince des mouches. Vous savez pas ça, hein? Le diable, c'est le prince des mouches. Alors, nous, la lumière, on l'attire et il vient, il tourne autour de nous. Et très souvent, il nous fait peur. On veut entreprendre quelque chose, puis on a une peur qui arrive. Mes frères et sœurs, la peur, c'est la présence de l'intelligence qui éteint la vie. C'est ça la peur. Si vous avez peur de ne pas réussir, c'est que vous êtes sous l'influence du monde de Caïn, du fils de la perdition. Vous voyez ce que je veux dire? La peur, en fait, c'est la signature de Caïn. Rappelez-vous de ça. Quand vous avez quelque chose qui vous fait peur, ne laissez pas cette signature de Caïn s'apposer sur votre vie. C'est un autre monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde-là, nous sommes d'une autre descendance. Il y a la postérité du diable, et il y a du serpent, et il y a la postérité de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes de ceux qui sont dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Alors la peur, elle nous tourne autour parce qu'on est la lumière. Les ténèbres nous tournent autour comme des mouches. La peur, elle éveille chez nous un esprit de doute. Et l'esprit du doute, quand il s'installe dans quelqu'un, eh bien, ça le rend faible. Et puis, ça le déséquilibre. Et ça finit par le faire chuter. Et c'est pourquoi la peur, cette chose infâme, cette signature de Caïn qui essaie de se poser sur vous, sur vos actes, eh bien, il faut la refuser. La peur, c'est la présence de l'intelligence qui éteint la lumière. Mettez ça dans votre tête. Rappelez-vous de ça. La peur, c'est la présence de l'intelligence qui éteint la lumière. Il y a une intelligence des ténèbres. Mais nous avons fait le choix de marcher dans la lumière. Amen. L'intelligence qui allume la lumière, au contraire, pas celle qui l'éteint, mais qui l'allume. Et cette intelligence-là, l'intelligence de Dieu, elle nous introduit dans la sagesse, elle nous introduit dans la souplesse. Dans la souplesse. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi le mot souplesse. Parce que c'est vrai qu'elle nous introduit dans une discipline de vie, c'est vrai. Mais c'est une discipline en toute confiance. Ça veut dire que c'est une discipline dans la souplesse. On n'est pas dans une discipline rigide. Vous voyez ? Dieu ne nous demande pas une confiance aveugle, stupide. Il attend de nous une confiance qui est fondée sur l'étude des textes sacrés, pas sur autre chose. On n'a pas à avoir confiance en Dieu parce qu'on sent la présence de Dieu. On n'a pas à avoir confiance en Dieu parce qu'on se sent bien, parce qu'on croit que... Non. On a confiance en Dieu parce que la véritable confiance, elle est basée sur les textes sacrés. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, parce qu'on s'imagine. Si on s'imagine, ça peut être erroné. Et mes frères et sœurs, la confiance, elle apparaît lorsque l'étude commence à se former en nous. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude qui se forme en nous? Mes frères et sœurs, on dit facilement que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est rempli du Saint-Esprit? C'est notre être. Et notre être, il est formé d'un corps. Et notre corps est là et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, lorsque l'étude prend place en nous, elle prend notre forme. Ça prend notre forme. La confiance, elle apparaît quand l'étude des textes sacrés à laquelle nous nous sommes adonnés, cette étude consciencieuse des textes sacrés, elle commence à prendre notre forme. Et nous devenons la parole qui se déplace, la parole qui s'exprime. Nous sommes la forme, la nouvelle forme de la parole. Jésus, c'était la parole faite chair. Aujourd'hui, la parole veut être faite chair. Mes frères et sœurs, arrêtez d'idolâtrer ce bouquin. Ce n'est pas le bouquin qui est Dieu. C'est vous. Parce que Dieu vit en vous, mais il ne peut y vivre d'une façon parfaite que si vous êtes des disciples parfaits. Et pour être des disciples parfaits, il faut que la foi vienne des saints textes là et qu'ils vous remplissent. Amen. C'est pourtant pas bien compliqué, mais c'est juste. C'est juste, mes frères et sœurs. Plus cette parole sera en vous, plus la manifestation de Dieu sera importante. Moins il y aura de place pour l'illusion, moins il y aura de place pour les émotions, moins il y aura de place pour tout ce qui est charnel et qu'on pense, voilà, ah c'est spirituel. Non, c'est pas spirituel, c'est charnel. Il y a beaucoup de choses charnelles dans l'Église qui paraissent spirituelles mais qui ne le sont pas. C'est de la lumière, c'est de la lumière fausse. La foi, la vraie foi, la seule foi, celle qui change vraiment, celle qui transforme les vies, celle qui guérit les malades, celle qui chasse les démons, celle qui résout les problèmes, c'est celle qui est basée sur les textes sacrés et sur rien d'autre. Si c'est pas dans les textes sacrés, du balai. Amen. C'est pas compliqué. On le sait tous. Et pourtant. Mais vous, Dieu fait des promesses. Et ces promesses, elles sont attachées à des lois sacrées. Quand on entend le mot loi, on pense tout de suite à Sarkozy avec les panneaux qu'il va enlever, avec les radars. On pense tout de suite à des trucs qui sont désagréables. Non, la loi n'est pas désagréable. La loi, c'est bien une loi. La loi de la pesanteur, c'est bien. S'il n'y avait pas la loi de la pesanteur, où est-ce qu'elle serait mes notes? Elle flotterait en l'air, je suis obligé de chercher mes pages, comme ça, à gauche, à droite. Et ça serait terrible. Moi, je serais obligé de mémoriser plus, hein. Heureusement, il y a la loi de l'apesanteur pour garder mes notes sur mon pupitre. Alléluia. Mais même si les événements ne se produisent pas comme Dieu a promis qu'ils devaient s'accomplir, hein, par exemple, la Bible nous dit que si on sème, on récolte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous avez toujours récolté? Oui, mais pas toujours au moment où on veut. C'est ça qui est ennuyeux. Alors la peur commence à venir. Et la peur, elle met le doute. Et quand il y a le doute, ben voilà, ben ça efface tout. C'est comme si on n'avait rien fait du tout. Alors, même si les événements ne se passent pas comme si vous le souhaitez, il faut la foi basée sur les textes sacrés va vous rendre souple, c'est-à-dire capable d'accepter. Hier, mon chien était tout content parce que nous sommes arrivés avec ma femme dans la voiture. Alors, il a 6 ans déjà, ce chien, mais il agit toujours comme s'il avait 3 mois. Il se met à sauter et tout. J'aime pas tellement qu'il fasse ça parce qu'une fois, il avait sauté sur la voiture, il avait une grande raie sur la portière et alors ça m'embête. Alors, chaque fois, je crie, va-t'en et tout. Puis j'essaie d'y mettre un coup de pied. Impossible d'y mettre un coup de pied. D'ailleurs, j'ai des coups de pied doucement, hein. Faut pas vous imaginer non plus que je bats mon chien, c'est pas vrai, j'ai jamais battu mon chien. Mais voilà, donc j'ai fait un signe comme ça. Ouh, mais faut voir comme il est souple, hein. Il est très souple, très souple. Eh bien, nous devons nous aussi être souples. On dit toujours être patient. Je préfère dire souple, moi. Faut être souple. La difficulté, là, elle est là, mais faut être souple. Souple, vous voyez? Être souple et attendre le moment où la situation va changer, parce que de toute façon, elle va changer. De toute façon, ça va changer. Ça reste jamais la même chose tout le temps. Vous n'avez pas encore compris ça, que ça reste jamais tout le temps pareil? Ça finit toujours par changer, toujours, toujours. Ah ben cette fois, c'est fini, je ne sais vraiment pas comment. Ah ben ça va changer. Combien de fois on a dit ça il y a 10 ans? Vous vous rappelez, il y a 10 ans, jour pour jour, heure pour heure, le souci que vous aviez? Non, et pourtant c'était énorme. Mais vous en souvenez plus, vous en souvenez plus. Pourquoi? Parce que ça a changé. Vous voyez, il faut avoir cette sagesse-là, cette souplesse-là. Toute chose ici-bas tourne, ça change, un temps pour ci, un temps pour ça, puis ça revient, puis ça tourne, puis c'est comme ça. Tous les êtres humains, c'est-à-dire toutes les âmes, parce qu'être, ça veut dire âme, toutes les âmes humaines, sont atteintes d'une espèce de maladie, c'est toujours vouloir que tout arrive comme on veut. Mais c'est pas possible. On pense toujours que notre vision est la meilleure. Si on ne pensait pas que notre vision était la meilleure, on n'oserait pas entreprendre des choses, on n'oserait rien faire. On serait toujours plein de retenue. Non, on pense que c'est la meilleure. Et puis voilà, on n'est pas très sage. Hein, il n'y en a aucun parmi nous qui est vraiment totalement, complètement sage. Le vrai sage, c'est celui qui s'en remet à l'esprit de Jésus-Christ et qui s'efforce de faire sa part. Mais il sait que sa part, c'est 20% du travail. Le reste, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Je vous ai déjà dit ces choses-là. Si vous mettez plus de 20% de votre part et que vous laissez aucune place au miracle de Dieu, mais vous allez vivre une vie comme quoi? Comme tout le monde. C'est pas intéressant, une vie comme ça. Comme tout le monde. Je veux pas une vie comme tout le monde. Pour atteindre nos buts, nous devons être calmes, dans le calme et la confiance. Hein? Nous devons atteindre nos buts, nous devons être dans un éveil silencieux. Nous devons être souples, on doit être léger. Même Dieu est léger, vous allez me dire, ah bon, aussi, bien sûr. C'est comment qu'il parle? Dans le bruit du tonnerre, dans le bruit du tremblement de terre? Non, vous connaissez votre Bible, hein? Eh bien, nous devons savoir saisir les opportunités que Dieu nous présente. Elles se présentent à nous, c'est un peu comme des ondes, et si nous n'avons pas l'antenne pour les capter, on passe à côté, puis on dit, bon alors, parce qu'on ne s'est pas rendu sensible, on n'est pas resté calme, on est resté coincé, on est resté énervé. Arrêtez, détendez-vous, soyez calme. Il nous faut nous associer à l'intelligence, nous associer volontairement à l'intelligence qui allume la lumière. Il faut le vouloir. Sinon, on ne parviendra jamais à faire une œuvre qui dure. Jamais. On va faire des petits trucs, des machins. Parce que c'est un fait. Ce que l'homme fait, ça se défait. Tout seul. Par contre, ce que fait l'homme à l'unisson avec l'Esprit de Dieu, avec la lumière de Dieu, avec la volonté écrite de Dieu, ça demeure éternellement. Alors faisons des choses qui demeurent éternellement. Des choses qui sont avec, dans l'unisson, dans la volonté de Dieu, en harmonie avec Dieu. Mais c'est quoi ces choses? Occupez-vous premièrement du royaume et de la justice de Dieu. Établissez le royaume et la justice de Dieu partout. Soyez des témoins. Ça, c'est le numéro un. Si vous vous occupez de ça, toutes vos petites histoires, Dieu va les régler. Vous ne croyez pas? Ben, tant pis pour vous. C'est comme ça que ça marche. Occupez-vous des choses qui demeurent éternellement. Et Dieu va s'occuper des petits trucs passagers, des petits trucs temporels dont vous avez besoin, on a tous besoin. On le sait. On veut quelque chose. On croit qu'on veut. Je me rappelle, pendant un temps, je travaillais dans une entreprise où on vendait des produits pour l'amincissement. Alors, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Mais je veux maigrir, je veux perdre du poids. » Mais on s'apercevait vite au bout du petit questionnaire qu'en fait, ils ne voulaient pas vraiment. Parce que ça coûtait trop cher. Pas que le produit était cher, mais ça demandait quelques sacrifices et ils n'étaient pas prêts à les faire. Alors quand on dit « je veux », ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas qu'on manque de volonté, mais c'est qu'on ne veut pas vraiment. On ne veut pas vraiment. Il y a même des gens qui ne veulent pas vraiment réussir parce qu'ils savent très bien que s'ils réussissent, ça va tellement changer leur vie, ça va changer leurs relations, ça va être autrement. Alors ils préfèrent rester dans leur train-train, dans leur machin. Ils ont un peu peur de la réussite. Il y a même des sportifs qui ont peur de gagner, savez-vous ça? Nous voulons une chose. Et la signature de Caïn vient se poser. Et hop, notre volonté, elle s'efface comme le brouillard du matin. Ça disparaît, plus ou moins lentement. Et vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'énergie en nous-mêmes. L'énergie des humains, elle leur vient de la lumière. La lumière, c'est l'énergie. Elle leur vient de la lumière, qui est une énergie, ou elle leur vient des ténèbres, qui est un manque d'énergie, qui est une fausse énergie. Rappelez-vous, quand on était créé pour être épouse. Dieu voulait avoir des enfants avec nous. Il a commencé d'ailleurs avec Adam à faire Ève, et puis ça devait continuer comme ça, et puis Adam et Ève ont fait des bêtises. Et puis voilà, ils sont devenus dans le règne animal, nous dit la Bible. On est tombé dans le règne animal. Mais au début, Dieu voulait être le père de tout le monde. Et nous, on était créés pour être l'épouse. Dieu est l'époux, nous sommes l'épouse. Dieu est le soleil de justice, puis nous, on est la lune, si vous voulez, dans la comparaison, dans la symbolique. La lune, elle fait que de refléter la lumière du soleil. Elle n'a pas de lumière en elle. Et l'épouse, elle n'a pas de lumière en elle, sinon la lumière de son époux. Malheureusement, il n'y a pas que la lumière, il y a aussi beaucoup de ténèbres quand vous regardez le ciel. Hein? La nuit, quand on voit la lune, il y a beaucoup de ténèbres autour. Il y a beaucoup d'ombres, d'esprits glauques qui sont là. Sous quelle influence êtes-vous? C'est ça la grande question. Parce qu'on n'a pas de lumière par nous-mêmes. Pour entrer dans le royaume des cieux qui est en haut, il nous faut vivre dans le royaume de Dieu en bas, selon les règles de ce royaume. Ces règles, elles sont là, nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Vivre selon ces règles-là, ça se résume ainsi. Sois uni avec le monde divin pour tout. Si tu ne peux pas être uni avec le monde divin pour quelque chose, c'est que cette chose-là fait partie de l'ombre. Ça fait partie des ténèbres. Donc, on ne fait pas. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, la Bible, Pierre nous dit, efforcez-vous d'ajouter la vertu, efforcez-vous d'ajouter la piété, efforcez-vous. Efforcez-vous, mais dans la souplesse, dans le calme, dans la légèreté intérieure. Choisissez-vous un endroit tranquille, vous n'allez pas être dérangé. Ouvrez votre Bible, prenez un crayon, un cahier, méditez, lisez à haute voix. Soyez dans le calme, dans la paix. Je vois des gens qui lisent la Bible dans le métro, c'est très bien. Mais ça ne doit pas être le seul moment de votre journée où vous lisez la Bible. Trouvez-vous un endroit comme un hôtel où vous lisez votre Bible, où vous étudiez, où vous mangez, où vous nourrissez de la parole de Dieu. Le plus confortablement possible. Moi, je ne peux pas lire ma Bible à genoux parce que ça me fait mal aux genoux. Si vous pouvez lire votre Bible à genoux, parfait. Moi, je ne peux pas. Alors, je ne la lis jamais à genoux. Je me trouve un siège bien confortable. Ah, mais si je la lis couchée, je m'endors. Pas vous? Faut pas cela. Moi, si vous pouvez, c'est bien. Moi, je ne peux pas. Trouvez une position, un endroit, un moment dans votre journée coupez votre téléphone, tranquille, dans le calme, pour manger la parole de Dieu. Comme ça, ça va nous permettre de retrouver ce que nous étions avant de venir sur cette terre. Notre esprit, il a été placé dans notre corps. Dieu nous a formé un corps et la Bible dit qu'il a mis un esprit en nous. Ce corps, il va retourner à la poussière et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné, n'est-ce pas vrai? Il va retourner et là où il était avant, c'était la paix, c'était la beauté, c'était le calme. Entourez-vous avec des jolies choses. Essayez de reproduire un endroit paradisiaque où vous rencontrez Dieu. Paradisiaque selon votre goût, paradisiaque selon mon goût, c'est autre chose que paradisiaque selon votre goût. Il n'y a pas de règle, c'est vous qui savez ce qui vous correspond, ce qui est bon pour vous. Peut-être pour vous, un endroit paradisiaque, c'est une belle musique. Pour moi, qu'est-ce que c'est une belle musique? Et qu'est-ce que c'est une belle musique pour vous? C'est tout à fait différent. Mais retrouvez-vous vous-même face à votre Dieu, dans des moments calmes, entourés de choses jolies, sobres, belles, pour pouvoir être vraiment en contact avec ce qui est beau, noble, louable, digne de louange, honorable. Et non pas « crochon », comme on dit en Suisse. Moi, je lis vite ma Bible sur le coin de la table en faisant des miettes dessus. Non. Non. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Mais ce n'est pas le bon truc. Ce n'est pas le bon moyen. Ne soyez pas crispés quand vous priez. Oh, je vois tellement de gens crispés quand ils prient. Seigneur mon Dieu, oh Jésus, je vais faire ce matin. Vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire? Je vais vous le dire, moi. C'est une tradition. C'est une tradition religieuse imposée par le monde des ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, tu as dit dans ta parole. Comment on parle à Dieu? Ce n'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Vous ne parleriez même pas comme ça à M. Sarkozy. Sarkozy, tu as dit dans ta parole. Tu as dit, avant les élections présidentielles, tu as dit. Non, on ne parlerait même pas comme ça. Mais, Monsieur le Président, sauf le respect que je vous dois, je voudrais quand même vous rappeler que pendant les élections présidentielles, vous avez dit que, alors je me permets de vous demander, de vous rappeler, afin que, hein, on parlerait avec beaucoup de... Non? Ou alors vous vous faites fiche dehors par le service d'ordre, hein? Mais il y a aussi un service d'ordre devant le trône de Dieu. Si vous arrivez comme une espèce de pingouin enragé, il vous fiche dehors, hein? Rappelez-vous de ça, pingouin enragé. Je ne sais pas si ça existe, les pingouins enragés. Je ne crois pas. J'ai beaucoup observé les gens dans le monde, comme ça, partout, même dans le milieu chrétien. Regardez un petit peu autour de vous. Vous allez voir, c'est rigolo. Les gens sont tellement crispés. J'ai fait la réflexion l'autre jour à mon épouse. Quand on voyait M. Strauss-Kahn sortir du tribunal, vous avez vu toutes les photos. Il est très crispé, on dit, tous les commentateurs ont dit, il a le visage fermé. Beaucoup de gens ont le visage fermé. Et regardez les lèvres. Les lèvres serrées comme ça, coincées. Plus de souplesse, plus de souplesse. Les lèvres ne sont plus souples, les lèvres sont crispées. Vérifiez ça. Et puis vérifiez aussi vos lèvres. Comment sont vos lèvres? Parce que tout ça, c'est un langage. Ça montre ce qu'il y a dedans. Comment vous êtes? Ça montre ce qu'il y a dedans. Vos expressions, ça montre ce qu'il y a dedans. Les gens qui sont comme ça. Il ne faut pas me dire qu'ils sont joyeux. Hein. Ça montre ce qu'il y a dedans. Le pouvoir, la Bible nous dit, le pouvoir, il est sur notre langue. Pourquoi vous serrez les lèvres? Pour empêcher votre pouvoir de se manifester? Ah, c'est peut-être parce que vous avez conscience que le pouvoir qui veut se manifester n'est pas un pouvoir de lumière, mais un pouvoir de ténèbres. Vous êtes en rogne, vous avez envie de dire des choses, vous ne les dites pas. Voilà. Non? Regardez un petit peu vos lèvres, comme elles sont. Repensez-y. Moi, de temps en temps, là, j'ai mis un miroir moi, en face de moi sur mon bureau, là, juste à côté de mon ordinateur. De temps en temps, je me vois. Je dis, oh non. Eh oui, il faut détendons-nous. On vit dans un monde de dingo. Pourquoi pincer nos lèvres? Pourquoi? Comment créer dans la crispation? Comment est-ce qu'on peut créer? Le pouvoir de la création est sur notre langue. On a le pouvoir de créer en parlant. Pourquoi est-ce qu'on se crée dans la... On ne peut pas créer dans la crispation, ce n'est pas vrai. On ne peut pas, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que dans la crispation, il y a une toute petite signature de Caïn en dessous. C'est qu'on a un peu peur. la peur, elle veut vous diriger. Où ?
Pas loin. Pas loin. Jamais bien loin.
Alors on sait que Dieu est amour. On sait que l'amour parfait bannit la... Être uni à la volonté écrite de Dieu, c'est être dans le bien, à tous les coups, à tous les coups. Alors mes frères et sœurs, ne vous isolez pas dans votre monde. Entrez dans le monde de la lumière, de l'intelligence divine, du calme, de la souplesse. Entrez dans ce monde-là de la légèreté. Quand on dit léger aussi, faire attention, parce qu'on dit aussi une femme légère. Hein. Ce n'est pas de ça dont je parle. Hein. Je parlais de ne pas être lourd. L'autre jour, je vous parlais que lorsque nous étions des esprits auprès de Dieu, nous soupirions, nous demandions, nous voulions, nous désirions venir habiter dans un corps humain. Alors on est venu, et quand on s'est rendu compte de ce que c'était, on s'est mis à pleurer. Pourquoi ? Parce que quand notre esprit est rentré dans notre petit corps humain, on s'est trouvé dans un monde de densité. Boum, c'est lourd, on est coincé là-dedans. Est-ce que vous savez comment faire sortir votre esprit de ça ? On ne sait même pas. Pfff. Et ça fait pleurer. Il faut se détendre, il faut respirer, il faut être tranquille, il faut être léger à l'intérieur de vous. Élevez votre cœur devant le Seigneur. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas coincés. Les gens coincés, pressés par le temps, les gens qui sont toujours en train de courir, toujours en train de courir. Vous savez pourquoi ils sont agités comme ça ? C'est parce que quelque part au fond de leur conscience, ils ont peur, ils ont conscience, ils savent qu'ils vont mourir. Alors ils se disent, faut vite. Faut profiter, faut faire vite. Ah, ils ne vont pas vous dire, c'est parce qu'un jour je vais mourir, mais c'est quelque chose, c'est une vieille peur au fond d'eux-mêmes. Alors ils se lancent dans toutes sortes de projets à gauche, à droite. Mon frère, ma soeur, tu es jamais seul, jamais, jamais, jamais. Il y a toujours autour de toi un monde qui est avec toi, un monde qui partage ta vie, un monde qui agit même au travers de toi, le monde des esprits. Il faut prendre conscience de ça. Ce que je vous donne là ce matin, c'est une clé pour le savoir-vivre chrétien. Le matin, quand on prie avec Michou, tous les matins à notre hôtel, nous invitons les anges, c'est-à-dire les hiérarchies angéliques, à participer à ce que nous allons faire dans la journée. Nous les invitons à participer à notre œuvre au travers de nous et à l'extérieur de nous, on les invite à le faire. Beaucoup de chrétiens se bornent à chasser les mauvais esprits, ils ont bien raison, mais ils n'invitent pas les bons. Ah. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre ? Vous avez bien compris ça ? Vous chassez les mauvais esprits, mais vous invitez pas les bons. Les anges, vous faites comme s'ils n'existaient pas. Moi, de temps en temps, je suis dans ma voiture, je dis « Ah, merci les anges d'être avec moi. » Le Saint-Esprit me dit « Oui, tu roules un peu vite là. » Bon, d'accord, merci Seigneur. Les anges sont avec vous. Merci les anges. Amen. Merci les anges. Nous invitons poliment les anges à venir avec nous. Le vrai savoir, celui qui vient des textes sacrés, de la parole de Dieu, eh bien ce vrai savoir, il nous protège des ténèbres. Ce vrai savoir, il nous éloigne du monde de l'ignorance où se trouvent les gens, de la peur, parce que la peur vient de l'ignorance souvent. Mais il ne suffit pas de lire la Bible. Il faut utiliser les clés que je vous donne. Utiliser les clés. Je vous en donne souvent des clés. Utiliser ces clés. Il faut utiliser les clés pour pouvoir donner un corps à ce que vous avez compris. Parce que si vous avez compris quelque chose et que vous n'ouvrez pas la porte pour rentrer dans cette chose que vous avez comprise, ben, ça ne donne rien de concret sur la terre. C'est juste un truc intellectuel. C'est juste un truc qui demeure dans votre tête. Vous dites, ah oui, je sais, on vous parle d'un jour. Oui, je sais. Il y a des gens qui viennent avec des problèmes plus gros qu'eux. J'essaie de leur parler, mais ils disent, mais je sais. Oui, mais... Ils ne sont pas servis de la clé pour ouvrir et pour rentrer dans cette connaissance. Ils l'ont juste là. Moi, je le dis de cette manière-là. Raphaël, il le dit autrement. Vous savez comment il dit, Raphaël, le gitan ? Il dit, ce que toi, dans la tête, là, tu donnes un bon coup dessus pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Tu le vis. Vis ce que tu sais. Vis-le. L'autre jour, je parlais avec un serviteur de Dieu. Je disais, mais pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'imposer les mains aux malades dans votre dénomination ? C'est interdit. Je dis, mais pourtant Jésus a dit, tous ceux qui croient, ils imposeront les mains aux malades. Alors pourquoi est-ce que les femmes, ce n'est pas des êtres humains comme les autres ? Elles ne croient pas la même chose que... Ah ben oui. Mais voyez-vous, la tradition, on lui avait enseigné un truc, il a cru le truc, il a vécu le truc, puis c'est tout. Il n'a pas appris le truc pour ouvrir, pour aller voir, et pour vivre le truc. Vivre le truc, c'est que tous ceux qui croient peuvent le faire. Et il y a des milliers de choses comme ça, des milliers de choses qu'on n'a pas comprises. On les a dans la tête, on sait que ça existe, on connaît les versets, mais on n'est jamais rentré dans le vécu de ces choses-là. On dit, ah, ma dénomination ne l'enseigne pas. Mais sort de cette dénomination, puis c'est tout. On s'en fout de ces dénominations. Dieu, il s'en fout. Mais est-ce que vous savez que Dieu s'en fout de ces dénominations? On fout de tout ça. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui vit sa parole. Si seulement il peut trouver une personne dans chaque église pour vraiment vivre sa parole, c'est la révolution. Connaissez-vous la vérité de Dieu? La vérité de Dieu est exprimée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand il exprime quelque chose, c'est ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, là, c'est prolonger ses jours au travers de vous. Prolonger ses jours par vous. Il veut se réincarner en vous. Croyez-vous à la réincarnation? Oui, la réincarnation de Jésus en vous. Il veut venir vivre dans votre chair. Christ en vous. Ce n'est pas seulement l'espérance de votre gloire. C'est l'espérance du salut pour tous ceux qui se perdent. C'est l'espérance de la guérison pour tous les malades. C'est l'espérance de tous les possédés qui sont liés, coincés avec les démons. Parce que si Christ est en vous, eh bien les démons vont partir, les maladies vont partir, les gens vont être transformés. Mais si Christ vient en vous seulement dans votre tête, ça ne sert à rien. Vous êtes simplement une gentille personne, vous payez vos impôts, vous êtes poli avec vos voisins, vous dites Alléluia le matin au culte, et vous pensez que vous êtes réveillé. Mais vous dormez. Même si vous hurlez en chantant, vous dormez. Parce que ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est de pouvoir vivre au travers de vous. Faire ce qu'il faisait autrefois. Il adore faire ce qu'il faisait autrefois. Il a aimé faire ce qu'il faisait autrefois quand il était sur cette terre. Il a adoré chasser les démons. Il a adoré guérir les malades. Il a adoré voir les yeux de la maman qui retrouvait son fils quand il est ressuscité. Il a adoré ces moments. Il voudrait pouvoir les revivre au travers de vous. Il voudrait pouvoir le vivre encore. Et vous dites, Seigneur Jésus, je ne connais pas ça que c'est ta volonté. Éclaire-moi, mon Dieu. Mais non. Tu sais simplement que tu n'as pas utilisé la clé pour rentrer dans ton savoir. Tu comprends maintenant? Dieu n'a que faire des spiritualistes. Ils sont fous. Dieu n'a que faire des philosophes chrétiens qui vivent dans un monde fabriqué. Dieu n'a rien à faire avec les religieux qui vivent dans un espèce de monde de croyances et de dogmes et d'illusions et d'émotions et de machins, tout ça. Il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est reproduire les choses qu'il faisait dans son corps autrefois au travers de chaque chrétien. Amen. C'est tout. Mais c'est beaucoup. C'est le meilleur. Dieu aime les disciples éveillés. La discipline éveillée, consciente, préparée, organisée. Croyez-vous que Jésus se levait le matin, se mettait un peu d'eau sur le visage, disait « Bon, ben maintenant on va aller faire des miracles ». Non, il se levait avant le soleil. Il allait rencontrer son Père. Puis après, quand il se présentait dans le monde, il disait « Moi, je ne fais rien de moi-même, je fais juste ce que le Père m'a montré ce matin dans la prière ». Ah, vous avez montré quoi aujourd'hui? Vous voyez qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on ignore. Nous sommes dans notre condition mortelle pour le moment. Dans cette condition mortelle, on a un maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il est la vérité. Eh bien, la vérité n'obéit à personne. À personne. La vérité n'obéit à personne. Est-ce que vous pouvez dire amen?
Amen.
C'est nous qui devons obéir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? On est tous d'accord pour dire la vérité n'obéit à personne. C'est-à-dire que la vérité, Jésus, n'exaucera jamais vos prières. Jamais! Il n'exaucera que les prières qu'il vous a inspirées. Mais encore faut-il que vous soyez des gens inspirés. Ah, Michel, qu'est-ce que tu m'apprends là? Mais bien sûr! Vous croyez que Dieu, il est... Ah bon, ah, il y a Michel qui prie là pour les malades, ben je vais vite y aller alors. Bon, voilà un petit miracle, il a demandé, je vais le faire. Ah, il y a le frère Osborne de l'autre côté du monde, ben, je vais vite aussi le dire. Tu parles. Il n'exauce que les prières qu'il vous a inspirées. Les autres, il ne les exauce pas. Voilà pourquoi il y a tellement de prières qui ne sont pas exaucées, parce qu'elles ne sont pas inspirées. Sa façon à lui, c'est de dire, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Il y a des gens, ils prient juste pour pouvoir dire après, j'ai prié, puis il était guéri. Ben, ceux-là, il ne les exauce pas, puis c'est tout. Et pourtant, il prie pour les malades, la même chose que ceux qui prient d'une façon inspirée. Ah, mais il y a quoi là? Il y a une clé. Dieu n'a pas à obéir à nos prières. Dieu aime d'amitié celui qui livre son corps pour vivre, pour agir, jusqu'à toucher la terre au point de lui apporter la bénédiction d'en haut. La terre, c'est ce qui est en bas. Les bénédictions, c'est ce qui est en haut. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ pleinement. Et celui qui a un corps qui est formé par l'étude des textes sacrés, celui-là, Dieu s'en sert pour pouvoir toucher depuis en haut en bas, afin que sa volonté soit faite ici-bas sur la terre, comme elle est faite au ciel. Amen. Si vous n'avez pas compris, vous réécoutez la bande. L'intelligence qui agit dans ce monde de fous religieux. Ah, j'étais sur YouTube encore. Mon Dieu. Les musulmans doivent rigoler quand ils voient ce qui se passe. Ils ont raison. Un monde de fous religieux, un monde de fous politiques, en ce moment, on est servi. Un monde de fous financiers, on est servi aussi. Un monde de fous enragés, des pingouins enragés, des fous. Eh bien, cette intelligence qui agit dans ce monde de fous n'est pas conforme au monde divin, à la volonté de Jésus-Christ. Pas du tout. C'est un autre esprit, c'est un autre monde. Ce ne sont pas les œuvres de sagesse. Ce sont des œuvres d'intelligence sombre. Elles veulent prendre le pouvoir. Elles veulent être ces puissances d'intelligence sombre. Elles veulent maîtriser le peuple, les gens. Elles veulent dénaturer toute chose. Elles veulent dégrader. Elles veulent éteindre leur âme. Tout ce qui se passe là en ce moment, ces peuples qui pensent qu'ils sont libres, mais libres, libres, mais mes pauvres enfants, mais ils changent de maître de ténèbres, de pire encore que ceux qu'ils avaient avant, mais beaucoup plus sophistiqués, mais pire. Et puis ça va arriver où? C'est que toutes ces nations dirigées par un petit groupe de villes, de personnages vils, animés par des ténèbres, par des sciences occultes, par des sociétés secrètes, d'Illuminati et compagnie, tout ce petit groupe-là de voyous, eh bien ces gens-là vont conduire toutes ces nations qui sont en train de soi-disant rendre libres pour aller dans la grande vallée, là où ils vont entrer en jugement avec Dieu, Armageddon. Alors, bien sûr, tout le monde se réjouit en disant « c'est formidable, on est libéré ». Non, 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 on n'est pas libéré, c'est une fausse liberté. C'est des puissances sombres, de ténèbres, qui conduisent les gens encore plus profondément dans les ténèbres. Ces puissances mauvaises veulent modifier le cours de l'histoire à leur façon. Elles veulent emprisonner les gens dans un monde faux, avec la peur, avec la signature de Caïn, pour que les gens disent « nous ne sommes pas dans la sécurité, contrôlez toutes choses afin que nous soyons dans la sécurité ». Nous vous donnons tout pouvoir. Et c'est comme ça que maintenant on a des voitures qui roulent à 280 et qu'on peut faire que du 30 à l'heure. Entre autres. Tout ce que je vous dis ce matin, c'est juste une petite bêtise, hein, cette histoire de voiture. Mais c'est pour montrer, on a peur. Les gens ont peur, c'est l'insécurité. Alors, tout ce que je vous dis ce matin, c'est la réalité que seuls ceux qui ont des yeux d'aigle peuvent voir. Cette intelligence ténébreuse, elle a décidé qu'il y aurait des rois, elle a décidé qu'il y aurait des présidents, elle a décidé qu'il y aurait des esclaves. C'est nous les esclaves. Et l'homme, ce grand crétin, il n'a rien vu venir. Il a perdu sa dignité, il a perdu son âme, il est là. Il est devenu un esclave qui se croit libre, c'est la pire des choses. Un esclave qui se croit libre. C'est ça la folie. Un vrai fou. Mais ne croyez pas que c'est seulement dans le monde. Il y a aussi des vierges, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont des vrais fous, des vierges folles. Et il y en a de plus en plus. Et elles sont de plus en plus mûres, c'est-à-dire elles se manifestent de plus en plus. On voit de plus en plus qui sont les vierges folles. Ça se voit gros comme... C'est énorme. On obéit à une sagesse qui est complètement séparée de Jésus-Christ le Créateur. Ils ont commis... Erreur sur erreur, péché sur péché. Ils se sont endettés en face de Dieu. Ils sont une bande d'esclaves. D'esclaves de quoi? De ce qui a triomphé d'eux. Que ce soit la religion, qui les fait vivre dans la peur, que ce soit la politique, les finances, ou ce que vous voulez. Un temps, ils ont dit, la femme n'a pas d'âme. Vous savez ça? Après, ils ont dit, non, peut-être quand même qu'elle en a une. Hein? Maintenant, vous savez ce qu'ils disent ? Les animaux n'ont pas d'âme. Mais quand on sait qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'une âme, ça nous rassure. Ça nous rassure. Alors, ils exploitent la femme. Ils exploitent les animaux. Ils exploitent la terre. Parce qu'elle n'a pas d'âme, la terre, non plus. Non, il n'y a pas des esprits sur la terre qui s'occupent, envoyés par Dieu, qui s'occupent de la nature. Il n'y en a pas, non, non. Non, non, c'est biochimique. C'est une bande de sauvages inférieurs. Voilà ce que c'est. Une bande de sauvages inférieurs. Ils exploitent les minéraux. Vous vous rappelez l'autre jour quand je vous avais apporté des pierres ici? Je vous ai dit, si vous regardez ces pierres sous un microscope très puissant, vous allez voir que ça vit. Ça vit. C'est bourré d'atomes, de protons, de neutrons, de bouchons, de trucs. Là. Ça vit. Ils exploitent les minéraux. Ils exploitent tout parce qu'ils sont possédés eux-mêmes par un esprit sombre, de ténèbres. Et les esprits obscurs qui les manipulent sont eux-mêmes destinés à l'enfer. Et ceux qui aiment le mensonge vont aller en enfer et ils vont adorer ça. Je vous promets, ils vont adorer ça. Il ne faut pas les plaindre. Ils vont être dans leur élément. Vous ne voulez pas de Dieu? Ça ne vous plaît pas? Ça ne vous plaît pas la droiture, la bonté, la gentillesse, la sagesse, la pureté? Ça ne vous plaît pas? Vous aimez mieux l'impureté, tout ça? Mais vous allez adorer l'enfer, c'est génial. Parce que si vous venez au paradis avec nous, il n'y a que la pureté, l'honnêteté, la droiture, il n'y a rien de souillé qui rentrera dans le royaume de Dieu. Alors, si vous n'aimez pas ça, mais surtout, venez pas au paradis. Allez dans l'enfer. Dieu, par amour, a préparé un endroit pour vous qui s'appelle l'enfer. C'est exactement comme ici, mais en pire. Vous aimez ça, hein? Ben, allez-y. Allez-y, c'est ce que je vous dis. Ils aiment le mensonge plus que Dieu. L'homme a perdu le sens du sacré, même dans les églises. Même dans les églises. Comment? On ne peut pas se comporter n'importe comment en présence de Dieu. Bon, Dieu est présent tout le temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on sait que Dieu est présent. Ben, dans l'église, il y a encore plus quand on vient rendre un culte à Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas, je suis désolé. Mais regardez, imaginez-vous la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu et toutes ces manifestations charnelles qu'on voit dans les églises à l'heure actuelle. Mais on ne fait pas ça en présence de la sainteté de Dieu. Non, messieurs. C'est une mode qui dure, ça fait seulement 20 ans, 30 ans, pas plus. Avant, ça n'était pas comme ça. Et il ne faut pas me dire que c'est une évolution. Si c'est une évolution, c'est la même sorte d'évolution que l'évolution des mœurs. C'est-à-dire, c'est une dégénérescence. Livrée, elle a mûri et elle montre de plus en plus sa nature. Alors, tout à coup, elle parle d'écologie. Oh, comme elle a l'air gentille, n'est-ce pas, cette ivrée. Elle parle d'écologie. Oh, mais c'est pas parce que soudain, tout d'un coup, ils se mettent à aimer les animaux, ou la nature, les plantes, les petits oiseaux, les minéraux. C'est pas parce que tout d'un coup, ils se mettent à avoir un cœur attendri. Oui, Brigitte Bardot, oui, des gens comme ça, oui. Mais non, mais les autres, non, mais il faut pas me raconter des histoires. C'est uniquement parce qu'ils ont peur pour leur propre survie. Voilà pourquoi ils parlent d'écologie. C'est encore une forme d'égoïsme. Ils s'inquiètent de leur devenir. C'est des tarés. Ils aiment leurs faux prophètes. Ils aiment le mensonge. Ils suivent le mensonge. Ils suivront les faux prophètes en enfer. C'est ça votre avenir, messieurs les écologistes, et puis tous les autres d'ailleurs. C'est hypocrisie. Hypocrisie. On vient nous dire, c'est la faute des êtres humains s'il y a le réchauffement de la planète. On pollue trop. C'est vrai qu'on pollue. Mais le réchauffement de la planète, ça n'a rien à voir. Toutes les planètes de notre système solaire sont en train de se réchauffer. Toutes les planètes de notre système sont déséquilibrées. Il y a une manifestation de puissance électromagnétique qui est entrée dans notre système solaire qui déséquilibre tout. Ce n'est pas nous qui avons fait tout ça. C'est prévu par Dieu. Dieu a décidé. Voilà, c'est maintenant. J'ébranle non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et voilà pourquoi tout est bouleversé. Ce n'est pas parce qu'on fume la cigarette, ou parce qu'il y a des usines, ou parce qu'on met du pétrole, ou parce que... Bien sûr que ça n'arrange pas les choses. Mais ce n'est pas ça. Les trous d'eau jaune, là, ce n'est pas nous. Bien sûr qu'on peut faire mieux. Bien sûr que c'est bien de trier les poubelles, tout ce que vous voulez. Mais... Dieu tient tout sous son contrôle, il n'a pas besoin de nos bombes atomiques pour détruire tout, croyez-moi. Pour nous, ce que nous avons à faire, c'est d'accomplir Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle de l'Évangile sera proclamée, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, pour, non pas pour que les gens soient sauvés, mais pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que tous entendent afin qu'au jour du jugement, personne puisse ouvrir la bouche. Voilà la vérité. Vous comprenez? Et par-dedans, ceux qui appartiennent à Dieu reconnaîtront sa voix et seront sauvés. Amen. Mais il y a beaucoup d'appelés afin de servir de témoignage, mais il y a peu d'élus. Et Dieu tient aussi ça dans sa main. La fin de l'histoire de l'Église, pas la fin du monde. Vous savez qu'hier, c'était la fin du monde, vous avez vu? En Amérique, il y a un type qui a lancé ça, il a dépensé toute sa fortune pour mettre des affiches, des placards partout dans, pour dire que c'était la fin du monde à 12h40. Bon, ben, il n'a plus qu'à aller bosser pour trouver sa fortune maintenant. Quels imbéciles. Ce n'est pas la fin du monde qui nous pend au nez. On est en plein dedans maintenant. C'est la fin du temps de l'Église dans les nations. C'est ça. C'est ça. Jésus va venir chercher son Église pour partir dans les noces. Et il n'y aura plus d'Église dans les nations. Et il y aura la mondialisation. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors portons le flambeau de la lumière, disons ces choses autour de nous, entrons dans la réalité concrète et vraie de la vie, pas simplement de la connaissance intellectuelle des choses. Ne restons pas dans un concept fabriqué de dogmes, de croyances, d'utopie, d'émotions et de machin comme ça, mais vivons ce que Jésus dit que nous devons vivre. Allons porter cette bonne nouvelle du royaume, Dieu nous accompagnera par des signes, des prodiges et des miracles, il l'a promis et je vous garantis, je sais de quoi je parle, il le fait, amen. Il le fait. Mais encore faut-il dire la vérité. Si on ne dit pas la vérité, Dieu ne cautionnera pas ce que vous dites. Ça sera une autre puissance qui va cautionner. Une puissance de ténèbres avec des faux miracles. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, Dieu en suscitera d'autres pour la faire. Moi, je ne veux pas. Aujourd'hui, les anges parlent aux chrétiens. Les envoyés de Dieu parlent aux chrétiens et ils disent, vous êtes vides d'âme, vous êtes vides d'être, parce que vous avez éteint en vous-même la lumière. Vous avez perdu votre splendeur, vous avez perdu votre pureté, vous avez perdu votre majesté. Vous ne savez même plus ce que c'est que la solidarité. Voilà ce que disent les anges à l'Église aujourd'hui. Vous avez même perdu la connaissance des règles que possèdent les animaux. C'est grave. Vous êtes devenus des fonctionnaires d'une intelligence que vous ne connaissez même pas. Ils disent que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Si vous connaissez les Écritures, vous savez qu'à notre époque, Jésus, il est à la porte des églises et il frappe. De l'extérieur, il n'est pas dedans. Il est dehors et il cherche à faire sortir les gens. Parce que c'est la fin de l'Église, telle qu'elle est là. Pour retrouver une Église de communauté, une Église de communion fraternelle, là où, comme il est écrit, il n'y avait aucun indigent, parce qu'ils mettaient tout en commun, parce qu'ils mettaient ensemble, ils prenaient soin des gens. Il connaissait les gens, il mangeait avec eux, il les connaissait. C'était pas « je t'aime de l'amour du Seigneur ». C'était de la vie, c'était pas... Ils avaient ouvert avec la clé et ils étaient entrés dans la vraie vie, dans le vécu. C'était pas virtuel. Maintenant, c'est la fin de l'Église virtuelle. Ouf! Il faut que nous retrouvions notre dignité de chrétien. Il faut que nous nous mettions à faire la volonté de Dieu. La seule volonté de Dieu que vous avez à faire, mes frères et sœurs, c'est de proclamer la parole de Dieu, de proclamer la venue du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Proclamez-le, dites-le, 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 dites aux gens, repentez-vous, que ce soit des païens ou des chrétiens, dites-le, repentez-vous, repentez-vous. C'est ça la volonté de Dieu. Si vous faites ça, Dieu va s'occuper de toutes vos affaires et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pas de signature de Caïn, c'est Dieu qui prend les choses en main. Amen. Jésus, je te prie pour que ces choses que j'ai dites ce matin soient gravées vraiment chacun d'entre nous et que cela transforme la vie pratique de ceux qui se seraient endormis sur le bord du chemin pour que quelque chose de lumineux puisse sortir d'eux et jaillir jusque dans la vie éternelle. Ce Saint-Esprit, cette puissance, cette lumière, cette énergie du Saint-Esprit, cette force du Saint-Esprit, qu'elle puisse jaillir, que ça soit visible, que les gens se rendent compte et qu'ils soient saisis d'une sainte jalousie en disant « Oh, ça je veux !» Mais cette espèce de christianisme poussiéreux, émotionnel, ça c'est détestable. C'est normal que les gens n'en veuillent pas. Mon Dieu, bénis ceux qui sont encore dans l'Église et qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'entrer dans la vérité, d'entrer dans le vécu. Père, que chacun de ceux qui entendent, que ça soit sur le net ou que ça soit sur la télévision,